Salut, c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur Fréquence Mistral. Nous recevons dans un instant l'association Addiction France, addiction au pluriel, dont le domaine d'action va de la prévention aux soins, du travail social à la réduction des risques. Les professionnels de l'association interviennent sur toutes les conduites addictives, mais l'association est également force de proposition pour faire évoluer les opinions et contribuer à la mise en place d'une politique cohérente sur les addictions. J'accueille pour inviter dans cette émission Sabine Dufort, directrice du Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Ainsi que Angélique Clemens, responsable prévention formation en régional, donc en région PACA. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, nous sommes aujourd'hui ici pour que vous puissiez nous présenter l'association Addiction France, qui a été fondée en 1872, donc depuis... Elle existe depuis un peu plus de 150 ans,
tout
cette association. Est-ce que vous voulez nous en parler un peu et nous parler de vos missions ?
Oui, oui. Donc, tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre invitation aujourd'hui parce que nous le souhaitons. Ça nous permettra de pouvoir donner un éclairage et un autre regard que celui que la société peut porter aux personnes qui s'adressent à nous et notamment de mieux lutter contre les préjugés, les stigmatisations qui sont liées aux addictions parce qu'effectivement, ça fait... 153 ans déjà que notre organisation lutte pour la reconnaissance des plus précaires, des personnes en difficulté, et ce depuis des années. Notre association a été notamment créée par Louis Pasteur, entre autres, et qui est une association qui est quand même reconnue d'utilité publique depuis 1880, ça fait un moment, qui est donc agréée d'éducation populaire et qui est une association éducative complémentaire à l'enseignement public. Ça veut dire qu'on peut aussi intervenir au sein des établissements scolaires à ce titre-là. Donc on est sur une association nationale qui intervient sur tous les départements de la métropole et à La Réunion. Et notamment en PACA, on porte 9 établissements dans le champ médico-social en addictologie. Nous sommes présents sur tous les départements de PACA. Principalement dans les Alpes de Haute-Provence, effectivement, vous l'avez dit, on porte un centre de soins de prévention en addictologie qui est un centre de soins ambulatoire. On porte aussi une consultation aux jeunes consommateurs et puis nous intervenons au sein de la maison d'arrêt de Digne-les-Bains en tant que XAPA référent carcéral et nous disposons d'une équipe mobile de 2 infirmières qui viennent aussi se rendre sur les lieux de vie des personnes, notamment pour faire face un peu aux difficultés de mobilité dans nos zones rurales. On n'est pas les seuls quand même, je tenais à le préciser, à intervenir dans le champ des addictions dans les Alpes de Haute-Provence. Nous avons aussi un CARUD qui est un centre d'accueil pour les usagers de drogue spécifiquement. Il existe aussi au niveau du centre hospitalier de Digne un hôpital de jour qui est porté par le docteur Poc qui est aussi médecin addictologue pour accueillir des personnes plutôt dans le cadre d'accompagnement au sevrage et une équipe de liaison qui intervient en amont et en aval des hospitalisations aussi pour toutes les addictions. On a aussi sur Sisteron, le Chicas de Gap qui intervient aussi en addictologie. Et nous, on travaille vraiment en collaboration, en fait, parce que on le voit bien, il peut y avoir des allers-retours entre des nécessaires hospitalisations et des suivis post-hospitalisation et un retour au domicile après des hospitalisations, notamment en termes de sevrage, pour accompagner au maintien. Donc notre établissement intervient auprès de tout public, adultes, majeurs, mineurs qui présentent des conduites addictives, mais aussi peut répondre à toutes les questions dès les premiers usages. L'idée, c'est de travailler effectivement autour du sevrage, mais aussi autour de la réduction des risques et le contrôle, en fait, reprendre le contrôle. Donc qu'est-ce que c'est qu'une addiction ? Peut-être qu'on peut aussi commencer à le déterminer, en fait. Les addictions et l'addiction est définie par l'OMS, et on pourrait en dire qu'elle se caractérise par l'impossibilité répétée de contrôler un comportement, et que la poursuite de ce comportement, en dépit de la connaissance des conséquences négatives, ben, on va maintenir ce comportement. La notion de conduite addictive, elle comprend à la fois la prise de substances, des produits psychoactifs, l'alcool, le tabac, l'héroïne, la cocaïne, les nouveaux produits de synthèse, mais aussi des addictions comportementales telles que le jeu pathologique, les jeux d'argent, les cyberaddictions, etc., etc. En fait, ce que nous pouvons observer au sein de notre établissement, et c'est en ça aussi où on souhaite lutter en fait contre la stigmatisation, c'est que la plupart du temps, les gens que l'on rencontre au sein de notre établissement, ce sont des gens qui valent le coup, hein, qui souffrent et qui, à un moment donné, la prise de produit ou le comportement vient réparer une souffrance ou vient se positionner en refuge par rapport à la souffrance, et qu'à un moment donné, la rencontre avec un produit, et on n'est pas tous fait pareil dans la prise de produit, il y a une forme de perte de contrôle, et même si on sait qu'il y a des conséquences négatives, on ne peut pas s'empêcher. Il y a un côté très compulsif, en fait. On ne peut pas s'empêcher de mettre en place ce comportement ou de consommer ce produit. Selon les produits, le pouvoir addictogène est un peu différent. On a la toxicité, hein, donc c'est-à-dire les impacts sur la santé. On a la notion de dépendance, et puis ce désir incontrôlable qui est encore plus prononcé selon certains produits. Il y a des produits pour lesquels la toxicité est très élevée, mais la dépendance ne va pas forcément arriver dès le début de la prise de produit. Notamment le tabac, bientôt le mois sans tabac, Angélique en parlera probablement. Le tabac est un des produits qui a le plus fort pouvoir addictogène, avec une toxicité très importante. Au niveau de notre établissement, on va accompagner des personnes toute addiction. On appelle ça un XAPA généraliste, donc on va intervenir sur les consommations de produits psychoactifs, mais aussi sur les addictions comportementales. Donc, sur la déstigmatisation.
sur les addictions. Donc là, c'est super parce qu'on revient sur l'addiction, sur sa définition en tant que phénomène, quoi, l'addiction au singulier. Et donc, les interventions que vous proposez, elles concernent plusieurs types d'addictions. Est-ce que là, vous en avez déjà cité quelques-unes? Est-ce que vous voulez aussi élargir un petit peu? Parce qu'on se dit que la liste n'est pas forcément fixe et que vous êtes probablement amené à la compléter au fur et à mesure qu'elle doit évoluer avec le temps.
C'est ça. Et bien, c'est surtout, ça évolue aussi en fonction des pratiques, et notamment des pratiques soit de consommation, soit comportement addictif. Au sein de notre établissement, on a sur une année, je vais vous donner des chiffres 2024, on a intervenu en 2024 auprès de près de 1400 personnes sur l'ensemble du territoire départemental pour près de 8000 consultations. Sur ces 1000, on va dire pas tout à fait 1400, c'est 1386 exactement, sur ce nombre de personnes, en fait, on a 48% de personnes qui viennent pour des consommations d'alcool. Ça veut dire que la plupart des gens ne viennent pas que pour des consommations d'alcool. En fait, ce que l'on repère, c'est que la majeure partie des gens ont une polyaddiction, en fait, hein, consomment plusieurs produits. L'idée dans l'accompagnement, c'est de pouvoir travailler avec les personnes vraiment sur du à la carte, sur la reprise de pouvoir et de capacité d'agir sur son comportement, et notamment celui de consommer ou son comportement addictif. C'est très compliqué, et pour ça, notre établissement, il a le soutien fort de l'Agence régionale de santé. Hein. On est un établissement qui est autorisé, contrôlé et financé par l'Agence régionale de santé, et qui va me permettre, moi, d'embaucher des professionnels, médecins, psychologues, éducateurs, assistantes sociales. On a aussi des secrétaires médico-sociales qui font l'accueil du public et qui vont gérer les premières situations et les premières demandes des personnes, et parfois des demandes qui sont très en souffrance. Il n'est pas simple de faire appel à nous, parce que nous nous rendons compte quand même que le regard social posé sur les personnes est très jugeant. Donc déjà, de pouvoir reconnaître les gens, parce que en fait, les addictions, c'est une maladie. Quelle que soit l'addiction, que ce soit la prise de produits ou le comportement, en réalité, il va y avoir une modification du système de récompense sur le plan neuronal. C'est une maladie invisible. Voilà, j'ai des problèmes d'intestin, c'est une maladie invisible, je vais me soigner et pendant le temps de mes soins, il va y avoir des moments où ça ira un peu mieux, des moments où il va y avoir de la reconsommation et ça fait partie du processus parce que la personne, elle doit être accompagnée tout au long du parcours. Ce qui est compliqué, c'est que ce qu'on observe, c'est que souvent les personnes, elles ont intégré une stigmatisation externe, celui de la société, elles le font. Elles le prennent pour elles-mêmes, en fait. Donc déjà, elles-mêmes, elles sont souvent, pas toujours, ça dépend, conscientes de la perte de contrôle et de ce que ça peut impliquer comme conséquence sur la santé, sur la vie professionnelle, sur la vie familiale, la prise de risque, conduite en état d'ivresse ou sous produits psychoactifs. La conscience, elle existe, mais la compulsion ne peut pas empêcher le passage à l'acte de consommer. Et ça, ça s'accompagne. Il y a différents types de traitements qui existent et il y a différentes possibilités d'outils thérapeutiques. Donc déjà sur le plan médical, selon les pathologies, selon les consommations, il va y avoir des traitements, notamment pour des consommateurs d'héroïne, il y a la possibilité de substituer avec de la méthadone, du Subutex, du Buvidal maintenant aussi, qui va améliorer la qualité de vie des personnes. Sur l'alcool aussi, il va y avoir des traitements. En fait, ce qu'on observe quand même clairement, et c'était le sens de notre participation aux semaines de la santé mentale 2025, puisque aujourd'hui on était là aussi pour pouvoir présenter cette action, qui a été labellisée grande cause nationale Parlons Santé Mentale par le ministère. L'idée, c'est de pouvoir mettre en avant, puisque nous avons pu l'observer, le médecin, le docteur Leloutre, qui est médecin addictologue au sein de l'établissement, a fait une présentation, effectivement, jeudi dernier. Et effectivement, il a pu mettre en avant qu'au sein des établissements, au sein des établissements comme le nôtre, on observe que à peu près, on n'est pas sur des chiffres très scientifiques, mais que environ 50% des personnes qui s'adressent à nous vont présenter des troubles de santé mentale. Et en parallèle, il y a des études qui mettent en avant le fait que dans le champ de la psychiatrie, à peu près 50% des personnes qui sont suivies en psychiatrie présentent des conduites addictives. Alors, on ne va pas parler de lien de causalité parce que ça n'a jamais été scientifiquement prouvé. La question de l'œuf ou la poule, on ne sait pas trop comment il s'agit. En revanche, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a de la corrélation en fait, entre addiction et santé mentale, que ce soit autour de la santé mentale pour des pathologies qui sont organiques, comme les troubles bipolaires, la schizophrénie, mais aussi sur des troubles de santé mentale qui sont réactionnels à des événements de vie. Et effectivement, c'est en ça que ça nous semblait important d'agir sur les semaines de santé mentale, parce que en réalité, la santé mentale, ça concerne tout le monde. On peut tous être amenés dans notre vie à vivre des situations qui vont être fragilisantes et selon les ressources que l'on peut avoir, la compréhension que l'on peut avoir dans notre entourage et aussi en nous-mêmes des phénomènes, la consommation de produits peut être un refuge ou le comportement peut être un refuge. Et si on n'est pas bien accompagné, si on se sent honteux et stigmatisé, on s'enferme dans les comportements et là, effectivement, il y a un risque de dépendance. L'idée, en fait, de notre action, c'est vraiment de mettre en avant qu'il y a des petites solutions qui peuvent exister. On en parlera tout à l'heure dans la présentation de notre programme, mais c'était de pouvoir démontrer que si on arrive déjà à déstigmatiser la population, si on arrive, probablement qu'on arrivera à faire en sorte que peut-être qu'elle serait moins porteuse de honte et que du coup, c'est déjà un pas pour se soigner. Parce que c'est vraiment ça. Je ne vais pas bien, je vais consommer. C'est ce qu'on appelle la boucle de la dépendance. Je ne vais pas bien, je vais consommer. Je vais essayer d'agir pour m'en sortir. Mais il y a toujours un événement qui va me ramener à mon refuge, qui va être le produit ou le comportement. À l'extérieur, on va me dire, c'est pas bien, tu fais pas bien les choses et encore tu consommes, etc., etc. Il faut plus que tu consommes, il faut plus que tu consommes. Je vois que je n'en suis pas capable parce que j'ai perdu le contrôle et donc je me réfugie. Et donc, c'est un peu la boucle infernale. Sachant quand même, et ça, c'est important de le rappeler, que souvent, souvent l'entourage qui se fait beaucoup de soucis hein, pour les personnes qu'elles voient consommer et entre guillemets se détruire. Elles ont tendance à parler de se sevrer, de ne plus consommer, hein, de ne plus agir, de ne plus faire le comportement. Pour les personnes consommatrices d'alcool, ben, on va cacher l'alcool ou on va tout retirer dans la maison. Pour les enfants devant les écrans, ben, on va tout fermer les écrans. Mais en fait, les conséquences d'un sevrage sec selon les produits, eh ben, c'est pas la même pour tout le monde. Et notamment pour l'alcool. Sachez quand même que l'alcool, c'est le premier produit pour lequel le manque d'alcool, notamment pour des personnes qui sont alcoolodépendantes, hein, qui ont un vrai trouble de l'usage de l'alcool, bah c'est le seul produit, si on ne l'a pas, en fait, la personne, elle peut mourir hein, par le délirium tremens, qui va commencer par des suées, des délires, etc. Et à un moment donné, bah, on peut en décéder. Ça, c'est des choses que les gens ne savent pas. Donc souvent, pour des personnes qui sont fortement dépendantes à l'alcool, on dit « il faut que tu arrêtes de consommer », mais ça, c'est jamais tout seul et c'est toujours accompagné, et notamment par un médecin. Et ça, ça se travaille. Voilà, ça se travaille notamment avec les centres hospitaliers ou avec un établissement comme le nôtre.
Alors, toutes ces mesures, ce sont des mesures d'accompagnement, que ce soit par les personnes qui sont elles-mêmes victimes d'addiction ou par les aidants, les proches autour, ou voilà, quand il s'agit de déstigmatiser l'opinion publique là-dessus. Mais vous proposez également d'agir en amont, en prévention.
Tout à fait.
Voilà. Alors, peut-être que Angélique Clemens, vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous proposez en termes de prévention.
De la même manière, je vous remercie de nous accueillir, de pouvoir parler de ces sujets-là. Donc effectivement, Addiction France, notre mission est aussi de prévenir les conduites addictives, de repérer les situations à risque et d'accompagner les plus concernés. Déjà, c'est quoi la prévention? C'est effectivement sensibiliser, mais surtout agir. Agir en promotion de la santé. Promotion de la santé, c'est, bah, comme le disait la charte d'Ottawa en 1986, c'est le processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle de leur propre santé et d'améliorer celle-ci. En fait, effectivement, à Addiction France, nous avons donc des équipes dédiées depuis toujours
sur les notions de prévention, et ceci sur toute la France, pas uniquement en région PACA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des équipes dédiées qui agissent sur le terrain, sur chaque territoire et aussi en fonction des spécificités des territoires. Donc, comme le disait Sabine, on est présent sur la prévention des conduites addictives et des addictions non seulement liées aux substances, c'est-à-dire l'alcool, le tabac, les drogues illicites, aussi les médicaments psychotropes, mais aussi les addictions sans substance, c'est-à-dire les jeux d'argent, les écrans de plus en plus, et aussi les usages numériques avec les dépendances comportementales qui sont apparues notamment ces dernières années. Donc, à travers ces actions de prévention, Addiction France adapte des interventions pour chaque public, selon l'âge, les lieux de vie. Donc, ça veut dire, ça peut être des scolaires, ça peut être donc au niveau du festif, c'est-à-dire des concerts, des festivals. Ça peut être aussi en milieu carcéral, donc au niveau des prisons, avec une attention bien évidemment particulière aux populations les plus vulnérables, c'est-à-dire les jeunes, les personnes sous main de justice, la grande précarité, mais aussi le handicap et au niveau de la santé mentale. Donc nous nous appuyons sur des stratégies d'intervention qui sont reconnues en France ou à l'étranger pour leur efficacité. Par exemple, nous sommes financés par l'Agence régionale de santé sur ce qu'on appelle des programmes probants, où on va intervenir, par exemple, sur les établissements scolaires pour aller sensibiliser et former nos jeunes, nos collégiens, nos lycéens, sur un développement de leurs compétences, qu'on appelle les compétences psychosociales. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler des compétences psychosociales?
Non, je n'ai pas en tête exactement à quoi on fait référence.
Donc le but, si vous voulez, dans ces programmes de prévention, c'est d'aller déjà très jeune, très tôt, aider les enfants à développer ces compétences sur savoir prendre des décisions, sur savoir résoudre des problèmes, savoir communiquer, savoir gérer ses émotions, son stress, et avoir conscience de ses propres ressources pour pouvoir finalement les construire, à éviter et à ne pas tomber dans les conduites addictives. On s'est rendu compte, puisque les programmes ont été bien évidemment étudiés, que c'était favorable sur tout ce qui est prévention et des conduites addictives. Donc on va aussi donc former les enseignants pour qu'ils puissent, à l'intérieur de leurs enseignements, durant les cours, pouvoir apporter ces compétences aux enfants, aux jeunes. Donc ensuite, donc on en parlait tout à l'heure, on peut aussi avoir des interventions un petit peu plus généralistes, qui sont aussi de la même manière financées par de l'Agence régionale de santé, d'autres financeurs privés ou publics. Et on intervient en tant que partenaire sur le mois sans tabac. Mois sans tabac, vous en avez entendu parler, j'imagine, également. Donc, on est ambassadeur et dans toutes les régions de France, l'opération a été lancée en 2016, on offre des conseils et un accompagnement personnalisé aux personnes qui souhaitent arrêter de fumer pendant au moins 30 jours. Donc là, il y a des bénévoles de l'association, mais pas que. Et donc, pendant ces 30 jours, on va mobiliser pour informer, sensibiliser même les passants, quelquefois dans le village Mois sans tabac. Et ça va être l'occasion vraiment de sensibiliser tout le monde, les adolescents aussi, sur les dangers du tabac, les stratégies déployées par l'industrie pour faire en sorte de toucher de plus en plus jeunes les fumeurs et d'inciter à la consommation de tabac. On peut avoir aussi des actions comme le défi de janvier, qui va informer sur les bienfaits d'une pause dans sa consommation d'alcool. Donc là, on est sur donc l'alcool. Et le défi de janvier, en fait, c'est mobiliser tous les centres et les réseaux sociaux pour sensibiliser et informer sur les bienfaits d'une pause dans la consommation d'alcool et soutenir les candidats pendant un mois. Le défi de janvier, c'est une campagne qui est nationale et donc on porte également, mais on n'est pas la seule association à le faire, et il y a d'autres acteurs, bien évidemment. Donc la sensibilisation, c'est ça, c'est-à-dire être là sur le terrain avec nos équipes pour sensibiliser sur les dangers de la consommation, les accompagner. Donc on peut être aussi bien présent auprès de collectivités, auprès du monde du spectacle, du monde du festif, auprès des entreprises également, pour pouvoir intervenir sur cette partie prévention. On a aussi une action au niveau de plus en plus sur la formation. L'idée, c'est de pouvoir aussi accompagner l'ensemble des professionnels sur des compétences leur permettant d'accompagner soit des salariés, soit les personnes qui sont sujettes à des conduites addictives et leur donner les moyens de comprendre ce qui se passe finalement et de les orienter vers les bons interlocuteurs pour les aider.
Oui, parce qu'on le précise, l'association Addiction France est également organisme de formation. Hein. C'est ce que vous étiez en train de développer, mais je le précise.
Oui, voilà. Donc, tout à fait, nous sommes organisme de formation certifié Calliope. Et pour mieux prévenir, effectivement, repérer et réduire les risques des conduites addictives, on va développer des formations à destination des professionnels de première ligne. Donc, des professionnels de santé, des travailleurs sociaux, mais pas que. Et donc, si vous voulez, par exemple, que je vous donne des chiffres, en 2024, on a eu et organisé plus de 600 sessions de formation. Donc, on a formé 7200 stagiaires. Là, on parle national, en fait. Donc, au niveau régional, effectivement, après, bon, les chiffres sont un peu inférieurs, mais le principe est le même, c'est-à-dire qu'on va former et accompagner sur des thématiques comme intégrer les bases de l'addictologie, repérer, orienter, accompagner, réduire les risques, et tout ce qui est mis en place aussi de démarches et d'outils de prévention en entreprise, puisque de plus en plus les professionnels dans l'entreprise, les services RH, les services de prévention, sont confrontés à des salariés qui peuvent présenter des risques ou des conduites addictives. Et l'idée, c'est effectivement de leur donner à eux aussi les outils pour pouvoir accompagner ces personnes et favoriser un bien-être au travail et aussi une sécurité, en fait, pour les salariés concernés.
D'autant plus que, si tu peux me permettre,
je t'en prie.
Bien que les risques psychosociaux qui existent dans tous les secteurs professionnels peuvent être aussi
des points de départ sur des consommations ou en tout cas des conduites addictives. Et c'est vraiment très très important aussi de pouvoir intervenir dans tous les domaines.
Tout à fait. L'idée, c'est de ne pas uniquement rester dans les domaines de l'accompagnement aux soins et la santé, où là, on va former effectivement des professionnels de première ligne, mais de toucher le plus de monde possible, et aussi dans le milieu de l'entreprise, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a certaines branches professionnelles qui sont plus sujettes aux conduites dites addictives. Je ne sais pas si j'ai le droit de nommer les branches professionnelles ou pas. Mais en tout cas, oui, on va aussi œuvrer et être présent et proposer des interventions pour accompagner les services de prévention des entreprises dans ce monde professionnel.
Oui, et puis en termes de prévention, vous avez cité pas mal le public jeune. Et
oui. Alors
je ne peux pas m'empêcher de citer une enquête qu'on peut retrouver donc sur votre site. Hein. Il s'agissait là de santé mentale, hein, dans le cadre de ces semaines d'information sur la santé mentale. Les études convergent pour dire que la santé mentale des adolescents s'est dégradée, en France comme à l'international. Que la santé mentale fragilisée des jeunes s'accompagne d'une montée inquiétante des comportements addictifs. Et selon l'INSERM, plus de 90% des dépendances à l'âge adulte débutent à l'adolescence. Le pic d'initiation à l'alcool, au tabac, au cannabis étant entre 15 et 18 ans. Et sachant que l'expérimentation précoce est un facteur prédictif très fort du risque de dépendance sévère
à
l'âge adulte. Je ne sais pas si vous vouliez commenter un peu cet aspect-là. Si vous êtes confronté particulièrement
Disons qu'effectivement, on mène beaucoup d'actions, donc comme je vous le disais, auprès des écoles, que ce soit les collèges, les lycées, auprès du public jeune, d'une manière générale. Est-ce qu'on peut parler du CJC ?
Oui, tout à fait. C'est ce que j'allais pouvoir rebondir sur ce point, parce qu'effectivement, nous, on voit, hein, quand on prend les tranches d'âge, donc public jeune, consultation jeune, consommateur, bon, voilà, ce sont aussi les jeunes adultes, on va dire, jusqu'à 25 ans. Nous, au sein de l'établissement, on rencontre près de 30% de personnes qui ont moins de 25 ans au sein de l'établissement et qui ne sont pas forcément des personnes qui sont dans leurs premiers usages, et notamment nombre de jeunes qui sont vraiment dans la zone de la dépendance. Ceci étant... Pour ne pas faire de misérabilisme, dans notre société, il y a plein de gens qui consomment sans problématique. Qui vont consommer de l'alcool ou d'autres produits sans que cela devienne problématique. La difficulté pour les jeunes, c'est que en fonction des produits, notamment en termes de santé mentale et de troubles de santé mentale, quand je disais il n'y a pas de lien de causalité, vous le verrez jeudi prochain si vous participez à la journée, mais le médecin a su très bien expliquer le fait que on peut pas dire que le produit déclencher une pathologie organique santé mentale, un trouble bipolaire ou une schizophrénie. Mais en revanche, probablement que des consommations, notamment de THC, hein, donc de cannabis, peut faire survenir plus tôt la maladie. Voilà. Qui serait sous-jacente, qui ne s'exprime pas forcément, mais que du fait des répercussions neurologiques du THC, il y aurait une entrée plus rapide dans la maladie. Donc effectivement, il y a un certain nombre de jeunes qui sont beaucoup plus fragiles que ça. Le professeur Beniamina, qui est d'ailleurs notre président associatif, a très bien communiqué aussi sur ces questions-là. Et vous pouvez aussi, hein, sur notre site, retrouver des podcasts notamment autour de cette question-là.
Eh bien, on peut justement en venir à ces deux journées que vous proposez. Alors, dans le cadre de la 36e édition des semaines d'information sur la santé mentale, la thématique, c'est « Pour notre santé mentale, réparons le lien social ». Et donc, deux journées sont proposées. Une était proposée le 9 octobre à Sainte-Tulle. Et donc, c'est le même programme, hein, pour les
Exactement.
Deux jours, c'est ça ?
Oui, on a souhaité faire comme ça.
On duplique, voilà, oui. La journée du 9 et donc dupliquer le jeudi 16 octobre à Digne-les-Bains. C'est la 36e édition de ces semaines d'information. Est-ce que vous y avez déjà participé ? Est-ce que c'est une première ?
Alors, c'est une première pour notre établissement. Effectivement, notre participation aux semaines de santé mentale, elle se faisait autrement au niveau de notre établissement et plutôt dans les accompagnements ou le partenariat qu'on peut avoir avec les services, notamment de psychiatrie. Cette année, l'Agence régionale de santé qui nous a fait confiance à accepter en fait hein, de financer cette action, puisque nous, nous sommes essentiellement dans le soin, donc on a très peu de financement hein, de la prévention. On sait que les budgets de l'État, d'ailleurs, qui n'est pas encore voté, hein, duquel nous dépendons, est quand même limité hein, dans notre contexte économique et politique actuel. Et effectivement, au XAPA, les soignants, ce sont des soignants qui aiment accompagner les personnes, et c'est pas qu'ils n'ont pas envie d'aller sur l'extérieur, mais si j'ai pas de financement pour pouvoir faire ce type d'action, c'est très compliqué. Cette année, on a effectivement eu les financements pour pouvoir développer cette action. Donc, sur Digne-les-Bains, le 16 octobre, ce sera à la salle Perchaud. Vous trouverez sûrement sur votre site le petit QR code où l'on peut s'inscrire. Mais si les gens ne peuvent pas s'inscrire, ils seront bienvenus quand même. Et il va se dérouler toute la journée.
Alors, c'est sur inscription, mais c'est un événement gratuit.
Oui, voilà, tout à fait. Alors, c'est vrai, vous faites bien. Une chose qui est essentielle, mais c'est tellement évident pour moi. L'évidence pour certains ne sont pas pour tous. Sachez qu'au sein de l'établissement, toutes les consultations sont gratuites et elles sont confidentielles. Et effectivement, là, l'action, elle est gratuite également. Donc, les gens peuvent tout à fait se présenter. On est prêt à les accueillir à 9h. Une chose importante, en fait, aussi à savoir, c'est que dans nos paradigmes d'accompagnement, hein, notre philosophie et notre éthique d'accompagnement, on s'attache vraiment à permettre aux personnes, en fait, d'améliorer leur qualité de vie. Le sujet de consommation et de produits, on va venir les aider à faire un focus sur à quel espace de votre vie vous pouvez réduire les risques que vous prenez en consommant, puisque soit vous ne voulez pas consommer, soit vous ne pouvez pas arrêter de consommer. À quel espace de votre vie on peut réduire les risques comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer votre qualité de vie, que vous puissiez vous rétablir et reprendre votre capacité d'agir hein, sur ce qui vous arrive au quotidien. Et là, on est vraiment dans un champ qui s'appelle la pratique de rétablissement en santé mentale. Et donc, on travaille fortement en lien avec des partenaires sur le territoire et notamment l'association Esper Pro, qui est une association en fait hein, qui vient mettre en avant la paire aidance. Hein. La paire aidance, c'est une association de médiateurs pairs, donc de personnes qui présentent des troubles de santé mentale ou qui ont présenté des troubles de santé mentale et qui sont rétablies à l'équilibre, avec ou sans traitement, ça c'est individuel. Et on s'attache vraiment aussi, nous en addictologie, par l'expérience en fait, hein, et le partage d'expérience. Et on sait très bien, notamment en addicto, que ceux qui en parlent le mieux, ce sont les personnes qui consomment hein, ou qui ont le comportement. Ils savent avant tout le monde quels sont les produits sur le marché, les bons, les moins bons. J'en profite pour parler du centre d'addictovigilance PACA, site sur lequel vous pouvez le tout à chacun retrouver les produits sur le territoire, et notamment territoire régional, qui circulent et qui sont très dangereux parce que de mauvaise qualité, pas vendus pour le bon produit, avec des risques très importants et notamment de décès, hein, puisque donc ils viennent répertorier tous ces éléments-là. Et avec Esper Pro, on travaille vraiment en lien parce qu'on a vraiment ce même paradigme d'accompagnement sur la place de la personne dans son soin. Donc, ce jour-là, effectivement, nous allons avoir des ateliers sur le matin, donc avec des professionnels de notre établissement hein, qui mettent à l'œuvre ce type d'atelier déjà au sein de l'établissement, mais aussi des partenaires qui font ce type de choses. Donc l'UNAFAM, hein, qui est l'Union nationale des familles et amis de personnes qui présentent des troubles psychiques, qui eux-mêmes proposent des groupes de parole. Donc effectivement, l'association Esper Pro, qui elle-même, donc je vous l'ai dit, est une association de médiateurs pairs. Il y aura aussi les professionnels du service de réhabilitation du CH de Digne, puisque nous collaborons grandement avec eux, puisque effectivement ils fonctionnent aussi sous le prisme du rétablissement en santé mentale. Donc la journée va se dérouler en atelier. Nous aurons un atelier sur les thérapies communautaires intégratives. Les professionnels de l'établissement sont formés pour animer ce type d'atelier. Nous aurons un atelier rétablissement et paire aidance. Donc ces deux ateliers sont des ateliers de partage d'expérience. Donc on pourra réfléchir un peu ensemble sur quelles sont les ressources que l'on peut trouver lorsque l'on est face en tant que personne, mais aussi en tant qu'entourage. Hein. L'établissement peut tout à fait recevoir des personnes de l'entourage sans la personne concernée. Et l'après-midi...
Je le précise avant que vous passiez à l'après-midi, pair aidance, même si peut-être il y en a à qui ça paraît évident, mais pair, P-A-I-R.
Tout à fait.
Voilà, on est dans le partage d'expérience.
Tout à fait, c'est exactement ça, le partage d'expérience. Et sur l'après-midi, effectivement, on sera sur un atelier apprivoiser ses conduites additives, qui est un atelier que l'on met en œuvre actuellement au sein de l'établissement, en fait, qui va donner des premiers éléments de compréhension sur le processus addictif, mais aussi des premiers éléments d'outils pour commencer à réduire les risques. Parce que quand on comprend mieux, on agit mieux. Et l'après-midi, on aura un atelier sur la pleine conscience et santé mentale, puisqu'effectivement, on a des ateliers de pleine conscience. On sait que les activités psychocorporelles, de relaxation, elles viennent aider notamment à la régulation des émotions. Pas une histoire de gestion, parce que je ne sais pas si on est tous capable de gérer nos émotions. Nous, ce matin, on n'était pas tranquille pour venir ici. Mais en revanche, voilà, arriver avec la respiration, avec des techniques très pratico-pratiques qui ne prennent pas beaucoup de temps, mais qui peuvent être faites quelques minutes par jour, ça peut aussi venir nous aider à être dans la régulation de nos émotions et donc, du coup, peut-être différer cette compulsion du comportement addictif. Voilà.
Alors peut-être un petit mot sur la journée du jeudi 9 octobre qui s'est déroulée à Saint-Othule. C'était donc sur le même modèle. Est-ce que ça s'est bien passé ?
Oui, alors nous avons fait preuve d'une grande flexibilité le 9 parce que nous n'avons pas eu énormément de participants. Je pense qu'effectivement, notre communication n'était pas suffisamment fluide, mais nous nous améliorerons. C'était notre première. Ceci étant, les personnes qui sont venues ont pu nous dire qu'elles étaient vraiment satisfaites des échanges, puisque nous avons remodélisé le matin les deux ateliers en un seul, dans la mesure où, en fait, il y a eu énormément d'échanges et de questions autour de la présentation du docteur Loutre sur la compréhension des pathologies du L. C'est vrai que notre médecin a une grande capacité à vulgariser et à rendre simples des choses qui sont assez complexes, quand même, en termes de compréhension, notamment sur les répercussions neurologiques, système de récompense, etc., etc. Et donc, les personnes étaient très satisfaites d'avoir participé. Et là où nous étions vraiment satisfaits aussi, c'est que du coup, ça nous a permis aussi de pouvoir envisager de nouveaux partenariats, des nouvelles actions. Espère Pro qui propose la bibliothèque vivante, donc qui a eu une action là sur les 11 et les 18 octobre. Bibliothèque vivante, donc il s'agit d'une personne qui est un livre. Et qui, voilà, avec des ateliers d'écriture. Et en fait, nous, dans notre établissement, on a beaucoup de patients pour lesquels le passage à l'écrit, écrire leur histoire, ça aide grandement. Et on s'est dit, mais on a tellement de gens au sein de notre établissement qui aimeraient pouvoir écrire. Et nous, on n'a pas encore les moyens de pouvoir développer des ateliers d'écriture parce que c'est quand même un métier. Pour le coup, on s'est dit, mais voilà, ça existe. Et peut-être que si on mettait les gens en lien, moi, j'ai pu, dans le cadre du PTSM, le projet territorial en santé mentale qui a eu lieu la semaine dernière, bénéficier d'une lecture bibliothèque vivante, mais je peux vous dire que c'est quand même pas rien ce qui se passe quand on est avec un livre vivant.
Alors ça, ce serait pour les partenariats à venir. En tout cas, si vous avez raté la journée du 9 octobre, vous pouvez encore venir à Digne. Donc le jeudi 16 octobre, ça commence à 9h la journée et ça dure jusqu'à 16h.
Tout à fait.
Et c'est donc sur inscription. Alors comment on fait si on veut s'inscrire? Et alors est-ce que si on s'inscrit forcément à toute la journée? Est-ce qu'on peut venir seulement à un atelier?
On peut choisir. Nous sommes très flexibles au niveau de notre organisation. Comme nous le sommes dans les accompagnements, on est dû à la carte. Donc si les gens ne sont pas disponibles sur toute la journée, ce que l'on comprend, ils peuvent venir juste à un atelier. L'idée, c'est de pouvoir changer de regard, vraiment, et de se dire que la santé mentale, ça concerne tout le monde et qu'il y a des petits outils qui peuvent nous aider au quotidien.
Alors nous, on va mettre en ligne sur l'article le QR code, mais voilà, pour s'inscrire, on peut aussi se rendre sur
tout
votre site internet. Est-ce que vous voulez rappeler le site?
Alors, je crois que le Facebook de l'établissement qui est géré par Marion, c'est XAPA CJC 04. Voilà. Après, vous pouvez nous trouver sous Google Maps. Enfin, voilà, vous pouvez nous trouver dans les moteurs de recherche habituels. Et puis, vous pouvez aussi vous présenter sans vous être inscrit. On vous accueillera. Voilà.
Donc voilà pour la journée du jeudi 16 octobre. Est-ce que pour aujourd'hui, on a fait le tour de tous les points que vous vouliez aborder ou est-ce qu'il y a un aspect qui vous revient sur lequel vous auriez envie de rajouter quelque chose?
Bah écoutez, non, moi, à part vous remercier, j'espère grandement que le regard porté sur les personnes qu'on accompagne puisse évoluer et changer. Voilà, si on met notre petite pierre à l'édifice, ça sera chouette quand même.
Merci beaucoup, oui.
Merci à vous. On espère que Fréquence Mistral peut contribuer à l'apport de cette petite pierre. Merci donc Sabine Dufort, directrice du Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, accompagnée donc d'Angélique Clémens, responsable prévention formation donc sur le plan régional. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Salut, c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le MAG Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.